Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Céline Antonin, économiste à l'OFCE, qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Patrick Artus, directeur de la recherche économique de Natixis, qui a coécrit Pour en finir avec le déclin, les priorités économiques et sociales chez Odile Jacob, également membre du Cercle des économistes. Et Thibault Langsade, le président de Lumines, spécialiste du traitement des données. Nathalie Janson, qui m'écrit, elle nous écoute tous les jours. Elle vient dans l'émission et puis elle nous écoute quand elle n'est pas là. Il est clair que les marchés ont du mal à se dire que c'est la fin, compte tenu de ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. C'est un peu ce que vous disiez. Ils sont trop jeunes. Votre vision de l'Italie, à compter de lundi prochain, Patrick Artus.
Je ne suis pas très inquiet.
Comme Céline, alors.
Parce que la grande crise de l'euro, en 2010, après la crise des subprimes, c'était une crise du financement du déficit extérieur des pays. C'est le moment où les Allemands et les Hollandais, pour nommer les vilains, ont refusé de continuer à financer le déficit extérieur des Espagnols, des Italiens, des Portugais et des Grecs. Et là, il n'y a pas ça. L'Italie n'a pas...
Quel est le moment où il y a ce refus de financement?
C'est 2010, c'est la sortie, c'est à partir de 2010. Et là, brutalement, les Allemands et les Hollandais donnent leur épargne aux Américains et puis aux autres Européens. Inquiétés par l'usage qui a été fait de leur argent avant la crise des subprimes dans ces pays du Sud. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. L'Italie n'a pas de déficit extérieur à refinancer. Donc l'Italie se finance essentiellement avec l'épargne des Italiens. Et en plus, les taux italiens sont suffisamment élevés pour attirer l'épargne même des autres, du reste du monde.
Les 4%,
les assureurs japonais investissent énormément en dette italienne. Donc je suis pas extrêmement inquiet. Simplement, ça pointe un problème de fond de l'Europe qui est, comme on l'a tous dit, la multiplicité des dettes. C'est-à-dire, on a 19 dettes publiques. La réserve fédérale, elle doit s'occuper d'une dette publique. Nous, on en a 19. Il y en a toujours une qui va mal. Quoi. Il y a toujours un pays qui a un problème structurel à tout moment. Et donc, ça crée un besoin que pour la Banque centrale de stabiliser les écarts de taux d'intérêt qui n'existent pas aux États-Unis. La réserve fédérale ne s'occupe pas de la dette de la ville de Détroit ou de la Californie. Et donc, ça crée une grosse pression sur la BCE pour faire plus qu'une banque centrale normale et empêcher que les taux d'intérêt s'écartent.
C'est ce qu'elle va faire, Patrick Artus.
C'est ce qu'elle va faire.
Bien sûr.
C'est ce qu'elle va faire. Mais ça lui crée... C'est un des arguments, d'ailleurs, de ceux qui disent qu'elle ne peut pas monter ses taux. Parce que si la BCE montait ses taux de façon à lutter vraiment contre l'inflation, vous auriez des taux allemands peut-être à 4, vous auriez des taux italiens à 6,5, et là, ça crée un vrai problème au trésor italien. Donc, ça crée une grosse contrainte sur la politique budgétaire européenne.
Il y a Ludovic Subran dans Les Échos mercredi qui disait qu'il fallait refaire officiellement du quantitative easing. C'est-à-dire pas uniquement refinancer l'actuel bilan de la BCE, mais y aller... Open bar.
Je suis en désaccord complet.
Ah ouais.
Quantitative easing, c'était l'aveu d'impuissance de la BCE pour faire remonter l'inflation.
Mais on serait où si on l'avait pas fait, Patrick? On serait où si on l'avait pas fait?
Non, on serait mieux, je pense.
Ah.
On serait mieux. On n'aurait pas eu de bulle surtout. On n'aurait pas fait la bulle immobilière. On n'aurait pas poussé les États à s'endetter sans compter. Enfin, non, je suis pas sûr qu'on serait plus mal.
Vraiment?
Oui. C'est le quantitative easing, c'est ce qu'on fait quand les taux d'intérêt tombent à zéro et que l'inflation est toujours plus basse que la cible d'inflation. Mais sur là, il suffit de faire baisser la cible d'inflation.
Les retraites. Madame Borne a vu hier les groupes parlementaires, on ne sait pas trop ce qu'ils se sont racontés, mais elle voit le président de la République aujourd'hui. La musique qui circule, je peux commencer par Thibault par exemple, la musique qui circule est que Emmanuel Macron veut cette réforme. Il a répété d'ailleurs, officiellement hier, explicitement qu'elle était nécessaire. Mais c'est l'outil, la méthode qui pourrait ne pas être celle dont on a parlé ces derniers jours. Le fameux passage en force, certes démocratique, via un amendement qu'on met dans la loi de finances de la sécurité sociale, avec la quasi-certitude que ce texte à l'arrivée sera adopté en article 49.3. Le 49.3, il y a quelques années, personne ne savait ce que c'était, ça choquait personne. Maintenant, dès qu'on le brandit, on a l'impression que la dictature est à nos portes. Comment vous vivez ce débat sur la réforme des retraites? Alors, je sais pas, Thibault, que ce soit sur la forme ou sur le fond.
Bon, sur le fond, je pense qu'on va tous être d'accord
et dire qu'il faut faire quelque chose.
Absolument nécessaire. Maintenant, le gouvernement va essayer de trouver la bonne réforme, en tout cas la bonne méthode pour pouvoir réformer. Et ça, ça pose un problème actuel, parce qu'il y a pour le moment une réforme sur l'assurance chômage qui est avortée et donc est entre la main du gouvernement pour pouvoir reprendre cela. Il y a une négociation qui va s'ouvrir, mais avec une probabilité non nulle que le gouvernement reprenne la main sur le partage de la valeur. Et il doit gérer le problème des retraites. Donc on voit bien que là, le gouvernement décide de remettre entre les mains des partenaires sociaux un certain nombre de sujets pour éviter probablement d'avoir les Français dans la rue, ou en tout cas les syndicats en tête de pointe, suivis des opposants politiques qui, évidemment, dans le contexte actuel, sont là pour continuer à remettre de l'huile sur le feu. Donc, il y a une volonté très forte du président de la République d'aller sur la réforme des retraites, probablement à minima, parce qu'il ne veut plus remettre les doigts dans les régimes spéciaux. Donc, il a essayé de trouver quelque chose de plus simple, de dire, finalement, on va faire passer un amendement qui est de passer de 64 à 65 avec une méthodologie sur
63.
Oui, il faut quand même voir que les retraites complémentaires, la moyenne d'âge est à 63,2. Donc, il peut faire un peu mieux pour pouvoir réformer. Donc, voilà, il y a une méthodologie qui n'est pas calée, une instabilité politique et des organisations patronales et syndicales qui sont extrêmement frileuses. C'est là où je ne comprends pas la position de Medef, qui globalement n'a aucune envie de voir les Français dans les rues, les entreprises entravées dans la situation actuelle.
C'est la raison pour laquelle ils
sont. Et donc, la méthodologie qui va consister à remettre ça entre les mains des partenaires sociaux, mais on voit bien ce qui s'est passé par le passé, alors peut-être que si elle est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vraiment sur une mesure d'âge très concentrée, il y aura peut-être une forme de consensus. Avec une droite qui aura probablement envie de prendre ses responsabilités s'il y a débat. Voilà, donc il y a un entre-deux qui est en train de se positionner avec un risque, évidemment, qu'elle soit totalement insuffisante.
Il y a une grande hypocrisie quand même chez les Républicains, car tous les ans, on n'en parlait jamais, mais les sénateurs généralement glissaient un amendement de réforme des retraites dans le texte de loi de finances, et puis évidemment à l'Assemblée, le truc était retoqué, et là, où on s'apprêterait du côté de la majorité à le faire, du coup, les LR disent c'est scandaleux. Retraite, Patrick Artus, Céline Antonin. On y va pas.
Non, mais bon, je pense que de toute façon, c'est inéluctable. Enfin, de toute façon, pour moi, c'est assez simple. Hein. Je vais peut-être être très caricatural, mais on a une augmentation de l'espérance de vie. Donc, je pense que c'est pas scandaleux que on augmente l'âge légal de départ à la retraite. D'autant qu'on est quand même au niveau le plus faible au sein de l'Union européenne. Enfin, 62 ans, on est vraiment en bas du classement. Je veux dire, des pays comme l'Allemagne, on est à 65 ans. Il y a des pays où on est à 67. Donc, moi, je trouve pas que ce soit scandaleux. Surtout que l'arbitrage qu'on a, c'est soit on ponctionne davantage les actifs, soit on baisse le niveau de pension des retraités. Et d'ailleurs, le dernier rapport du COR, donc du Conseil d'orientation des retraites, montre qu'il va y avoir vraiment une baisse justement du niveau de vie des retraités par rapport aux retraités d'aujourd'hui. On est à un peu plus de 100% aujourd'hui, donc en termes de niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, on sera à peu près à 75-80. Donc, voilà. Et donc, moi, je pense qu'il vaut mieux travailler un peu plus longtemps pour avoir de meilleurs...
Qu'appauvrir les retraités.
Voilà, qu'appauvrir les retraités. Et après, il y a toute la question qui est, à mon avis, très liée, qui est comment on vit jusqu'à l'âge de la retraite, parce que c'est aussi ça. Est-ce qu'on a du travail jusqu'à 65 ans? C'est la question du taux d'emploi et de l'employabilité des seniors. Et ça, c'est une question, pour le coup, très importante, parce que c'est sûr que si c'est pour être en précarité 5 ans avant d'être à la retraite, ça n'a aucun, ça n'a aucun sens.
Comment vous le regardez, ce sujet, Patrick Artus? Réformer les retraites pour retrouver une viabilité financière, pour envoyer le signal à l'Europe qu'on fait la grande réforme structurelle, bien visible, en vitrine, là, celle que tout le monde attend.
Il faut être clair sur les objectifs.
Mais c'est ça.
Il y a un premier objectif qui est de retrouver de l'argent public pour faire autre chose que payer des retraites. Par exemple, financer la transition énergétique, les relocalisations, l'éducation, etc. Et donc, nous dépensons en France un peu moins de 14 points du PIB en retraite. Le reste de l'Europe, c'est 10 points.
C'est ça.
Donc, on a 4 points de plus. Et donc, il y a 2 points qui vont s'enlever avec les effets de la réforme Touraine. Hein, donc, mais ça met 15 ans. Quoi.
L'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans.
On va revenir autour de 12% dans 15 ans, mais on peut juger que c'est trop lent, qu'on a besoin de cet argent pour faire mieux. Et donc, on va gratter sur les dépenses de retraite pour mettre l'argent ailleurs où il y a des besoins d'argent public importants. Le deuxième sujet, c'est le taux d'emploi. On a un taux d'emploi en France qui a un tout petit peu monté, mais qui est 8 points plus bas qu'en Allemagne et 10 points plus bas qu'en Suède. Si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, c'est-à-dire si la même proportion de personnes en âge de travailler avait un emploi qu'en Allemagne, on aurait aujourd'hui, pour des dépenses publiques et des impôts donnés, nous aurions un d'excédent budgétaire d'un point de PIB. Hein, on aurait 6 points de PIB de plus de recettes publiques, on aurait 12 points de PIB de plus. Et donc on a un énorme problème en France qui est la faiblesse du taux d'emploi. Et donc là, je reviens sur ce que dit Céline, mais il ne faut pas croire que repousser l'âge légal de la retraite, c'est une arme automatique à faire monter le taux d'emploi.
Bien sûr.
Parce qu'il y a quand même quelques trucs à faire avant, qui sont, par exemple, faire en sorte que les plus de 50 ans aient de la formation professionnelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Il faut que les deux soient combinés, voilà. Pour moi, c'est sûr,
toujours multifactoriel.
Voilà, il faut mieux faire avant la réforme de la formation professionnelle et la formation professionnelle des salariés âgés, et après seulement le repousser l'âge légal de la retraite. Voilà, donc voilà. Mais il faut vraiment que le gouvernement soit clair. Est-ce qu'ils veulent simplement de l'argent pour faire mieux avec l'argent public que payer des retraites, ou est-ce qu'ils veulent faire quelque chose de plus profond qui desserrerait durablement la contrainte de finances publiques en augmentant le taux d'emploi?
Le taux d'emploi est particulièrement bas en plus pour les 60-64 ans, parce que finalement dans les 55-59 ans on est à peu près aligné sur nos voisins. Par contre, ce qui pose problème, c'est les 60-64 ans, et alors ne parlons pas des 65-69 ans, on est à 8% là. Donc
c'est un sujet, ça, Thibault Langsade, et c'est un sujet d'entreprise, c'est pas un sujet d'amendement de loi, c'est pas un texte de loi qui fera que la culture au sens large. Alors je vous prends un témoin comme chef d'entreprise, vous n'êtes pas responsable de ce phénomène, mais à chaque fois qu'on évoque ce sujet des retraites, oui, ça sert à quoi de bouger les retraites si on continue à avoir une énorme masse de gens au-delà de 58-59 ans qui n'ont plus de boulot, parce que il y a dans la culture des entreprises en France l'idée que il y a plein de solutions pour se séparer des gens un peu avant, certains sont demandeurs d'ailleurs. Et c'est un sujet qui doit aussi évoluer. Alors on sait qu'on le fait évoluer de manière un peu, avec un peu d'inertie, quand on bouge les bornes d'âge. Il y a un déplacement dans le bon sens du marché du travail des plus vieux. Mais est-ce que les entreprises n'ont pas un rôle à jouer ?
Bien sûr qu'on a un rôle à jouer, et c'est probablement d'ailleurs le maillon faible, ce qui pose la question de l'employabilité du collaborateur tout au long, on va dire, de son parcours en entreprise. Et quand on regarde les programmes de formation, ils sont très centrés sur l'employabilité des jeunes, ce qui est normal, hein. Plus le collaborateur passe du temps dans l'entreprise, moins il est formé. Et donc, il faut s'occuper des seniors. On a une responsabilité majeure. Majeur. Et dans beaucoup d'entreprises, notamment les grandes entreprises, il y a encore des plans de débarquement, ou en tout cas des propositions pour faire partir des collaborateurs. Je ne vais pas citer les entreprises, mais globalement, à 58 ans, dans les grandes entreprises, ils peuvent prendre leur retraite à 58 ans, exactement, ils seront payés jusqu'à 64 ans, c'est quasiment 6 ans, pour avoir une retraite à taux plein, et n'exerceront plus de travail. Donc il y a eu plein de dispositifs qui
ont
pas fonctionné.
Ils sont payés par qui, pardon, quand vous dites, ils sont payés...
Ils sont payés par l'entreprise.
L'entreprise va payer son salarié pendant 6 ans, même s'il n'est plus là.
Bien sûr. Il y a eu plein de dispositifs qui n'ont pas fonctionné, je pense notamment aux contributions de la Lande, qui fait que quand on voulait licencier un collaborateur âgé, il y avait plein de subterfuges pour ne pas le faire, mais c'est un vrai sujet qui est l'employabilité des seniors. Alors il y a une injonction paradoxale où le patron a dit il va falloir travailler plus longtemps, oui, mais est-ce qu'on est en capacité de garder ses collaborateurs en entreprise? C'est parfois compliqué, notamment dans la situation actuelle où la transition digitale a été extrêmement forte. L'employabilité a été plus difficile sur ces profils-là. Oui. Et je ne parle pas d'un sujet qui est, on va dire, l'usure au travail ou la pénibilité, qui fait qu'on se retrouve avec des populations qui ne peuvent plus exercer certaines tâches. Donc là, le seul sujet qui est vraiment clé, qui est fort, que le gouvernement essaye de traiter par le compte de formation, essayer de donner les moyens pour que le collaborateur puisse se former. Mais la réalité, c'est qu'il se forme pour d'autres métiers. Il se forme pour d'autres engagements, pas forcément sur celui de l'entreprise. Donc il y a une forme de péréquation qui ne fonctionne pas. Mais oui, si on veut régler le problème des retraites, il va falloir qu'on règle la problématique de l'employabilité des seniors en entreprise.
C'est aussi l'occasion, et je arrêterai le sujet là-dessus, Patrick Artus, de... J'avais bien aimé un jour, vous aviez fait un papier dans les Échos, je crois, sur la capitalisation, en disant que les fonds de pension, c'est une réforme de gauche.
Oui.
Et je trouvais que l'argumentaire s'entendait très très bien. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion, si on ose remettre les pieds dans le plat des retraites, parce qu'il y avait effectivement ce que vous disiez, là, les chiffres sur le taux de remplacement. C'était Mathieu Plane, d'ailleurs, votre camarade de l'OFCE, qui nous en faisait état il y a deux jours ici. Et j'étais avec Erwan Tison, qui a regardé les 349 pages du rapport du COR. Il en est arrivé à la conclusion que la répartition est condamnée. Et que si la répartition étant probablement pour des raisons démographiques très menacées, peut-être le moment d'oser ouvrir, si on ose ouvrir le sujet de la capitalisation, et vendre le sujet comme une réforme de gauche.
Oui, mais enfin, moi j'ai essayé de défendre ça sur quelques plateaux de télé avec un succès très limité.
Oui, je vous ai vu une fois. Je vous ai vu une fois, je ne sais plus devant qui, mais.
C'est pas audible, quoi. C'est écrit comme réforme de droite, le retour du capitalisme financier. En réalité, si vous faites les calculs rétrospectifs, effectivement, Si on avait eu une dose de capitalisation dans le système français, on aurait des retraites plus élevées aujourd'hui. Quoi. Le rendement des actions, il est très supérieur au rendement des obligations depuis toutes les périodes de temps que vous pouvez regarder. Mais ça, pas, non, ça, faut pas compliquer le dossier. Je crois que
n'en rajoutons pas.
C'est un sujet qui est totalement politique. Personne regarde les vrais chiffres et c'est un cas désespéré.
Je vous avais vu d'ailleurs, je sais plus en débat, mais effectivement, la personne en face de vous était que sur le terrain politique. Et en fait, je pense qu'elle n'entendait même, je sais plus qui c'était, elle n'entendait même pas.
C'est expérience répétitive. Quand vous parlez à quelqu'un qui pense qu'il est à gauche, il pense qu'il a comme devoir d'être anti-dividende, anti-capitalisme, anti-capitalisation, anti-réforme capitaliste.
Mon ennemi, c'est la finance. Hein.
Donc, ça a marché, mine de rien.
Donc, c'est pas la peine de relancer ça.
C'est vrai qu'il y a des sujets irruptifs, les dividendes. Je sais que chaque fois qu'il y a un débat que pose un libéral, un capitaliste, on va dire, face à un anticapitaliste. À la fin, c'est les dividendes qui tranchent. C'est la guillotine. Choc ! Quand on a lâché le mot dividende, c'est fini.
Oui, pourtant, le partage de la valeur ajoutée. C'était pour faire la transition.
Je vais me tourner d'abord vers Thibault, parce que je me souviens quand même qu'il y a pas mal de mois, il a travaillé sur un truc qui s'appelait le dividende salarié. On en a bien beaucoup. C'était Jérôme Dédéian, qui connaît bien le sujet, qui était là il y a 48 heures ou hier, qui m'a reparlé de cette fameuse formule de calcul. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui avait une actualisation à faire de tout ce qui avait été mis en place à l'époque du général de Gaulle. Bon, Olivier Dussopt nous dit, il a donné une feuille de route aux partenaires sociaux, peut-être pour les calmer d'ailleurs sur les sujets sur lesquels l'État les écarte, comme l'assurance chômage. Tenez, on vous donne le partage de la valeur. Mais enfin, il leur dit négocier, mais il dit en même temps, il y aura des mesures dès la loi de finances. Je ne sais pas s'ils auront le temps d'avancer sur le sujet. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en loi de finances, là, qui est en Conseil des ministres mercredi prochain, sur le partage de,
bon, d'abord,
de la valeur.
Le premier sujet, c'est que c'est un vrai sujet pour les partenaires sociaux. Autant sur les retraites, on va dire, c'est un sujet qui est très lent, compliqué, qui engage tous les Français. Et donc là, sur le partage de la valeur, c'est vraiment un sujet qui doit être entre les mains des partenaires sociaux. Donc là, la méthode est classique. On définit une lettre de cadrage, on demande aux partenaires sociaux d'ouvrir une concertation, voire une négociation, et puis on voit ce que ça donne. Là, il y a une lettre de cadrage qui est assez précise, et puis un calendrier qui est très précis, en disant globalement, le calendrier, c'est que si vous n'êtes pas en capacité de négocier, nous, on peut reprendre la main et on va le faire dans le PLFSS. Tout en disant, si jamais vous vous mettez d'accord sur un processus de négociation de façon structurée et ordonnée, on peut vous redonner du temps. Donc là, il les comprime un peu. Si on veut le traiter de façon globale, le sujet de partage de la valeur, parce que c'est quand même un sujet qu'on n'a pas traité depuis l'intéressement, la participation, il va falloir qu'on y passe un peu de temps. Le sujet pouvoir d'achat, qui a été extrêmement rapide pour pouvoir mettre en place des mesures concrètes, notamment autour de la prime partage de la valeur, a quand même des effets collatéraux. Et donc, il faut maintenant que ce soit repris dans le temps. Laisser peu de temps aux partenaires sociaux sur le sujet du partage de la valeur, ça accouchera d'une souris. Le patronat mettra des garde-fous et les syndicats considéreront que ce ne sera pas assez. Donc la tentation sera que le gouvernement reprenne la main. Il y a une, on va dire, dans la campagne présidentielle, le président a pris une mesure qui est de mettre en avant le dividende salarié. Donc il va falloir que ça s'exprime. En tout cas, la parole présidentielle devra maintenant atterrir. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc les partenaires sociaux vont
ouvrir. Il n'y a pas grand-chose à attendre dans le texte de budget.
Non, mais parce que quels sont les points qui sont attendus ? Un, il faut conditionner le versement des dividendes. Conditionner la participation à des versements de dividendes. Donc si vous versez des dividendes, il est exclu qu'il n'y ait pas de la participation ou de l'intéressement. Donc là, il va falloir qu'il négocie. Il y a la simplification de la formule de participation. Je ne vais pas redonner la formule, parce que sinon, ça va être trop long.
On l'avait fait une fois ici, une fois suffit.
Mais il va falloir que, probablement, la simplifier, qui est un pourcentage du bénéfice net comptable ou du résultat net, pour que toutes les entreprises puissent facilement le mettre en place si elles ont la volonté de le faire. Et puis, il y a la fiscalité de ces dispositifs. Et le quatrième point, qui est l'actionnariat salarié, qui ne se décrète pas en claquant les doigts. Donc ça peut prendre un peu de temps, et je pense que si les partenaires sociaux disent, écoutez, nous on y va, voilà le calendrier, voilà notre ambition, le gouvernement aurait tout intérêt à attendre, on va dire, les résultats de cette concertation ou de négociation, pour pouvoir le faire dans un autre projet de loi, qui sera probablement plus facile à mettre en œuvre à l'Assemblée, si les partenaires se sont mis d'accord.
Pas grand chose à espérer de révolutionnaire dans le budget, visiblement, 2020.
De conditionner, on va dire, le versement des dividendes à du dividendes salariés, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire.
Ah oui, non, si ça apparaît, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, mais si ça apparaît, alors là, effectivement, on aura pris une décision forte. Il nous reste 8 minutes. Il était temps, Patrick Artus, que les pouvoirs publics, après le pouvoir d'achat, s'intéressent aux entreprises. On voit que là, les Allemands sont intervenus. Bah, par exemple, l'Allemagne a nationalisé le Engie allemand, sinon c'était fini, le Engie allemand. Et là, Liz Truss, la très conservatrice, décide qu'elle va payer la moitié de la facture d'énergie des entreprises pendant les 6 mois d'hiver. Et là, ben, en France, les appels au secours se multiplient. L'appel au secours d'hier, c'est celui de la filière fruits et légumes. Ils disent, écoutez, si rien n'est fait, pas compliqué, un tiers de nos exploitants ferment. Voilà, donc faites quelque chose. Est-ce que vous dites que maintenant, après la demande, eh ben, il faut aller appuyer sur l'offre, quoi qu'il en coûte, parce que encore, les milliards vont s'aligner, mais enfin, sinon, on va détruire du capital physique et détruire du capital humain.
Oui, alors il y a le problème de prix de l'énergie, il est multiple. Il y a d'abord le problème du prix lui-même, je vais y revenir, et puis il y a le problème de la compétitivité de l'Europe. L'électricité coûte 6 fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe. Et il y a plein de grandes entreprises industrielles, alors ce n'est pas les PME des fruits et légumes, mais qui vont délocaliser, qui ont annoncé des délocalisations.
Il y en a déjà.
Et donc c'est quand même une urgence. Moi, je pense qu'on peut essayer de se dire qu'il va falloir bloquer le prix de l'électricité et du gaz en Europe à un niveau qui est à peu près le niveau de sortie de la crise russe. Et aujourd'hui, ce qui est proposé par la Commission, c'est 180 euros le mégawatt-heure. C'est très au-dessus du niveau de sortie de crise. Donc en fait, il va falloir... Macron a raison. Il va falloir faire quelque chose qui ressemble à ce qu'ont fait les Espagnols et les Portugais, qui est bloquer le prix de l'énergie à un niveau qui sera à peu près notre niveau de rime de croisière une fois l'Europe autonome et indépendante du gaz importé de Russie. Ce qui est peut-être autour de 100 euros ou de 120 euros. Donc il y a quand même une grosse
marge. En fait, la bonne réponse est celle-là.
Oui, je pense que c'est la bonne réponse. C'est d'abord, et puis c'est évidemment débrancher le système de fixation du prix de l'électricité. Et puis faire bloquer le niveau du gaz et de l'électricité, c'est-à-dire aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, à un prix qui est le prix normal de marché qu'on peut pifométrer pendant 4-5 ans au moment où on n'aura plus besoin du tout des hydrocarbures russes. Et ça, c'est plus bas que 180 euros la tonne. 180 euros la tonne, ça donne une incitation à la délocalisation de l'industrie qui consomme beaucoup d'énergie, qui est considérable.
Et le problème, c'est de passer l'hiver, là. Parce que
c'est de passer l'hiver prochain qui sera pire, parce qu'on n'aura pas de stock de gaz russe pour commencer l'hiver. Et c'est de raccorder sur une situation normalisée où on n'a plus du tout besoin de faire de l'énergie venant de Russie, qui est dans 4 ans ou 5 ans. Mais à nouveau, il faudrait mieux cibler le prix de l'énergie à ce moment-là que de faire une bosse puis de corriger la bosse. Pourquoi 180 euros d'ailleurs ? Ben, c'est juste pour faire de l'économie d'argent public. Hein. Mais honnêtement, ce qui a du sens économique, c'est de se raccorder sur un prix qui est à peu près le prix économique de l'énergie européenne post-crise. Quoi.
C'est votre avis, Céline Antonin, il faut que l'exception ibérique soit généralisée ?
Oui, ben je pense que de toute façon, cette histoire en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ayant effectivement un prix de l'électricité qui est complètement aligné sur le prix du gaz, ce qui se passe, c'est que déjà les entreprises qui, du coup, utilisent les renouvelables et autres sources d'énergie font des profits monstrueux. Donc, d'où l'idée de taxer les fameux super profits en Allemagne et ailleurs. Bon, alors en France, c'est un peu différent parce que on a EDF qui doit vendre une partie de son énergie nucléaire. Enfin bon, c'est un peu différent. En tout cas, il y a cette histoire de profits qui sont colossaux. Donc, je pense qu'il faut de toute façon décorréler. Et d'ailleurs, on l'a vu en Espagne, ça marche assez bien et ça a permis d'avoir beaucoup moins d'inflation que dans d'autres pays, que par exemple en Allemagne.
C'était au mois de mars. Je ne me souviens pas comment ils ont fait les Espagnols et les Portugais pour avoir cette exception ibérique. Ils ont dit quoi
Ils ont négocié avec la Commission, mais ça n'a pas été si évident que ça.
Bruno Le Maire se bat depuis des mois là-dessus.
Alors eux, ils ont joué aussi sur l'argument qu'ils étaient un peu déconnectés du marché européen, en disant qu'en fait, ils étaient beaucoup plus locaux, que ça n'allait pas se répercuter sur les autres pays, que c'était vraiment leur péninsule qui était à part. Puis ça n'a pas été si évident parce que en fait la Commission a fixé un niveau plus élevé que ce qu'ils voulaient à la base et qu'une partie devait être payée par le consommateur. Donc en fait ça a quand même un peu grincé des dents, mais ils sont quand même arrivés.
Il y avait deux arguments. Il y avait l'argument de faible connexion au réseau européen, puis il y avait l'argument d'énormes parcs de renouvelables.
Aussi.
Plus de 50% de l'électricité.
Ah, quand on se balade en Espagne, les pales d'éolien, c'est partout. Thibault Langsade, parce que là j'ai regardé les fruits et légumes, c'est juste hallucinant. Hein. Il y a un producteur d'endives dans le Pas-de-Calais, il dit normalement l'énergie c'est 3% de mes coûts de production, en 2023 c'est 30%. Le président de France Légumes a publié un mail qu'il a reçu d'un adhérent qui dit je paye 49 euros le mégawatt-heure et mon fournisseur me dit que l'an prochain c'est 1500. vous.
Il faut qu'il change de fournisseur.
Oui, là, je suis d'accord. Bah, ouais. Comment vous vivez dans votre entreprise, chez Lumines, le phénomène énergétique là?
D'abord, on a écrit à tous les énergéticiens pour savoir quelles étaient leurs politiques. On a des contrats, donc pour le moment, on est stabilisé. Nous, 90% de notre consommation est pour nos data centers, donc qui sont très énergivores, et les data centers, on les éteint pas. Je vais pas me comparer aux fruits et légumes, on peut couper la serre, mais les data centers, quand vous êtes une entreprise qui sert des activités vitales, vous les éteignez pas. Ils vous onduleurs, ils ont une durée assez courte, puisque le problème d'un onduleur, c'est d'équilibrer la tension. Et si vous utilisez des groupes électrogènes qui marche au fioul, ça va devenir un non-sens. Donc moi, mon sujet, c'est que pour le coup, je suis à peu près stabilisé, mais c'est de m'assurer qu'on n'ait pas de coupure.
Ah oui.
Et ce que me disent les énergéticiens, pour l'instant, ils disent, retournez-vous vers les préfets, faites en sorte que vous soyez bien identifié comme une entreprise vitale, pour que vous...
Vital, soyez... comment on est vital?
J'avoue que je ne sais pas.
Critères, cas, moi,
donc, si, mais pendant la crise Covid, nous, quand vous obteniez des autorisations pour circuler, pour pouvoir fonctionner normalement, on avait été accrédité par le préfet qui considérait qu'au vu de vos clients, au vu de vos responsabilités, vous étiez considéré comme vital. Ça, c'est une décision. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les préfectures. En tout cas, nous, on héberge un certain nombre de clients sensibles, vitales pour la population, et on va faire en sorte de ne pas être coupé. Sinon, d'abord, dans une entreprise de services numériques, si vous coupez, on coupe tout. Donc là, on devient comme les fruits et légumes. Ça, c'est pas 30% de notre récolte ou 30% de notre activité, c'est toute l'activité qui s'arrête.
Ouais. C'est exactement ce que disait Laurent Vronsky quand je lui demandais comment est-ce qu'il voit les mois qui viennent. Il me dit, je peux anticiper plein de chocs, plein de difficultés d'approvisionnement, d'inflation, mais la coupure d'électricité, c'est juste impensable.
Oui, mais Nicolas, quand on fait les calculs, cet hiver, il va manquer en France à peu près 3% de notre énergie. Et tenant compte de toutes les économies possibles, la baisse des températures dans les bureaux, dans les logements, etc. Et l'utilisation accrue du gaz, d'ailleurs. Il va quand même manquer 3%. Et donc, il va falloir trouver 3% d'économies d'énergie. Ça correspond à un hiver de température moyenne. Et l'année prochaine, c'est sans doute un peu plus que ça. Donc, on a quand même 2 années où il va falloir couper un certain nombre d'activités. Donc, il va falloir bien faire attention à ce qu'on coupe. Il y a des activités où c'est irréversible. D'ailleurs, quand vous coupez un haut fourneau, il est mort. Donc, il va falloir faire très attention. Mais il y aura des coupures. Ça, c'est absolument inexorable.
Il y aura des coupures, c'est inexorable.
Oui, il manque 3% de notre énergie compte tenu de toutes les économies qu'on peut faire.
Il y aura des coupures. Il y aura du chômage.
Je serais réinvité.
C'est super sympa. Oui, Céline.
Oui, j'allais dire. Non, je pensais que vous vouliez parler de la Russie. Aussi.
Ah ben, alors, attends, à 29 secondes de la fin, c'est pour ça que j'ai pas ouvert le sujet.
Mais bon, alors ils s'en sortent pas très bien. Je veux dire, contrairement au discours. Mais par contre, il y a quand même, ils profitent quand même de l'augmentation des prix de l'énergie. Et en fait, ils n'ont pas tant réduit que ça leurs exportations, parce qu'en fait, on est quand même dans un monde mondialisé, enfin dans une économie où il n'y a pas que des pays européens ou occidentaux. Et en fait, les sanctions ne s'appliquent pas chez les autres pays. Et ils ont quand même aussi trouvé le moyen d'exporter vers la Chine, vers l'Inde, dans des quantités moindres. Mais ils font aussi du transit par d'autres pays. Et d'ailleurs, par exemple, avec ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on voit que ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer aussi une partie du gaz par l'Azerbaïdjan, et ce qui permet d'exporter, en fait. Et quand Ursula von der Leyen, par exemple, a fait un accord, justement, pour avoir plus de gaz en provenance d'Azerbaïdjan, outre le fait que ça pose aussi quand même une question morale, puisque, bon, on fait des sanctions pour les uns... quand on tape sur les Ukrainiens, mais apparemment pas quand on tape sur les Arméniens. Donc il y a déjà cette question-là. Et l'autre question, c'est qu'en fait, on est allé faire un accord avec un pays qui, en fait, nous réexporte sans doute des matières premières venues de Russie. Donc il y a quand même une hypocrisie dans l'histoire.
Merci Céline Antonin, Patrick Artus et Thibault Langsad. On se retrouve lundi à 9h.